Divergence FM, l'interview.
Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est un sujet difficile, puisque nous avons dans le studio Myriam qui va nous parler d'une aventure, l'histoire d'une vie en tout cas, qui a assez mal débuté et qui, on l'espère bien sûr, se poursuivre dans des meilleures conditions. Alors c'est une personne qui a été, il y a maintenant de nombreuses années, en 1977, dès l'enfance, dès la petite enfance, confiée à une famille d'accueil qui donc était censée en prendre soin et l'amener progressivement, comme toute famille, vers l'âge de la majorité. Alors, un petit point d'histoire. Autrefois, c'était les services dits de la DAS, Direction départementale de l'action sanitaire et sociale, qui avaient en charge ce travail de sélectionner des gens auxquels on confiait ensuite des enfants en bas âge et qui donc faisaient office de famille d'accueil. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent, puisqu'après les lois de décentralisation, ce sont les départements, les conseils départementaux qui ont cette compétence et qui donc ont récupéré ce qu'on appelle encore aujourd'hui l'aide sociale à l'enfance, sous la forme du sigle ASE. C'est donc ce service qui prend en charge les dossiers et qui, selon les cas, confie à une famille un enfant ou à une maison d'enfants qui est tenue par des éducateurs spécialisés et donc soustrait l'enfant et l'enfance en général à la rue et aux difficultés de la vie. Il y a une actualité assez récente vis-à-vis de cette question puisque les enfants de migrants sont d'actualité. Il se trouve que les départements n'ont aucune raison de s'occuper de migrants, ils n'en ont pas la compétence, mais par contre, lorsqu'il s'agit d'enfants, ils en ont la compétence et donc l'exercent avec des difficultés. Et il faut rappeler que d'un département à l'autre, les choses peuvent changer. Autrefois, on avait une règle qui était générale à l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, chaque département a sa propre politique, même si elle est constante, a sa propre politique d'aide sociale à l'enfance. Voilà. Ce préambule achevé, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et Myriam est venue nous voir pour témoigner d'une histoire, l'histoire d'une vie qui ne s'est pas très bien passée. Et elle va nous raconter comment ça s'est déroulé et dans quel cadre cette période de la naissance jusqu'à l'âge de 22 ans, et où elle est restée dans la même famille d'accueil, et comment les choses se sont passées.
Bonjour.
Bonjour.
Donc voilà, moi j'ai été placée à l'âge de 18 mois parce que mon père était alcoolique et ma mère était en psychiatrie. Donc j'ai été placée dans une famille d'accueil où la mère de la famille d'accueil était mon bourreau en fait. C'était donc de la manipulation, du lavage de cerveau, de la séquestration, des insultes, du rabaissement.
Dans cette famille, il y avait déjà des enfants.
Oui, elle avait 3 enfants à l'époque, à elle.
Mmh. Il y avait une différence de traitement entre ces enfants-là et vous, je suppose.
Alors, c'est ce qu'on me demande à chaque fois. Il me semble que oui, parce que quand même, eux, quand on a grandi, ils avaient droit à plein de choses, comme la mobylette, la première voiture, le premier appartement. Et moi, j'osais à peine demander de l'argent pour, par exemple, ma carte de bus. C'était à chaque fois l'angoisse pour leur demander la somme de, je ne sais plus à l'époque, c'était 50 francs, un truc comme ça.
Dans ce cadre-là, vous avez quand même pu faire quelques études, puisque vous avez un BEP.
Oui.
Mais que vous avez obtenu de haute lutte de ce fait.
Oui.
Compte tenu des circonstances dans lesquelles vous avez étudié. Dans ce climat qui n'était pas très favorable.
Oui. Et en plus, normalement, j'aurais pu partir à 18 ans. Mais il y a un contrat de force majeure qui est jusqu'à 21 ans. Mais avant de signer, on m'a bien dit, tu diras que tu veux rester dans la famille, que tu veux que la paye soit toujours à notre nom. Et tu continueras tes études jusqu'à 21 ans à la maison.
Voilà. Alors, ce qu'il faut expliquer pour qu'on comprenne bien l'enjeu financier qu'il y avait, c'est que, évidemment, ces familles à quelles on confie les enfants sont rémunérées pour cet accueil. À l'âge de 18 ans, qui est l'âge de la majorité, normalement, l'enfant s'en va, mais avec une possibilité de rester quelques années de plus pour terminer ses études. Et voilà. C'est donc là qu'on vous a proposé de rester, moyennant cet arrangement, et donc une sorte de renoncement de votre part à partir, et ce qui vous a fait rester pour finir votre diplôme. Donc c'est au fond, c'est un peu l'appât du gain qui fait que cette famille a souhaité vous garder et pas
par amour.
Voilà.
Pas du tout.
Est-ce que vous considérez que ça vous a marqué définitivement ?
Oui, bien sûr.
Et qu'aujourd'hui, ça empoisonne un peu votre existence ?
Non, enfin, aujourd'hui, je fais beaucoup de choses pour moi. Mais ce que je trouve pas normal, c'est qu'on n'a que 3 ans après la majorité pour porter plainte. J'ai appris ça parce que j'ai voulu porter plainte vers les 28-30 ans, quand j'ai eu un équilibre dans ma vie. Et on m'a dit, mademoiselle, on ne peut pas. Vous avez dépassé le délai de prescription.
C'est ça.
Et là, ça m'a rendu... Là, c'est l'injustice qui continue, en fait. Et c'est pour ça que je témoigne aujourd'hui. Parce que moi, je souhaiterais que ce délai soit vraiment prolongé.
3 ans,
à 18 ans, moi, je ne pensais pas du tout à porter plainte. À 18 ans, moi, je pensais plus à m'aérer la tête de ces 18 ans de séquestration et de... Voilà.
Mais quand vous dites porter plainte au fond, c'est pour sanctionner cette famille ou pour trouver des responsabilités en termes administratifs, quoi.
Trouver la justice, que justice soit faite, en fait.
Mais ça passe par quoi, pour vous, la justice ?
Elle ne m'a pas porté plainte et que ce soit reconnu. Qu'il y ait, comment dire...
Et auriez-vous aimé que cette famille soit... qu'on ne leur confie plus d'enfants, par exemple ?
Oui, mais maintenant, c'est trop tard. Lui est décédé et...
Parce que ça, cette justice-là, on ne pourra pas, vous le dites vous-même, c'est trop tard, donc elle ne pourra pas vous être rendue.
Oui, mais au moins que ce soit entendu et peut-être, voilà, quelque chose...
Et que ça évite à d'autres de vivre la même chose, peut-être.
Oui, et que, comment dire, et que les personnes qui en ont souffert parlent, parce que les personnes n'en parlent pas, et je sais pourquoi... Parce qu'on a très honte, en fait. Moi, c'était ça. Personnellement, j'avais honte. J'avais très honte de ce que j'ai vécu. Et c'est pour ça que j'ai mis des années à en parler. Donc maintenant, j'aimerais que ces personnes-là n'ont plus honte et qu'on peut en parler et que ce soit plus tabou. Et ça, c'est un de mes rêves, quoi.
Alors, est-ce qu'on peut, pour les gens qui, je sais pas, qui nous entendraient, qui voudraient s'associer à cette quête de justice. Est-ce qu'on peut joindre votre association ?
Oui, j'ai fait un blog.
Oui.
Voilà, j'ai fait un blog et j'ai mon mail dessus.
Donc, si on va sur un moteur de recherche et on met les survivantes de la DAS,
on tombe dessus. Oui.
D'accord. Et donc, on peut vous écrire
On peut m'écrire, tout à fait. Sur Facebook, j'ai une page.
D'accord. Voilà.
Et j'ai 2-3 témoignages sur YouTube aussi.
D'accord. Et donc, votre combat continue.
Oui.
On va dire même, il se renouvelle. Et donc, vous êtes, si des gens ont envie de s'associer à ce combat, la porte leur est largement ouverte.
Exactement.
Très bien. Merci beaucoup, Myriam.
Merci beaucoup à vous.